Des mots jetés, impressions, sensations, des images, le son, le sens des mots, et puis une vibration, la voix, une musique, mélodie, rupture, arrangement, une chanson, des écritures, et l'irrésistible envie de chantonner et de s'en souvenir longtemps. Sous la boule à facettes, le tonnerre gronde. Ce sont les premiers mots, les premières notes du nouvel album d'Émilie Loiseau, autrice, compositrice, interprète, qui depuis une quinzaine d'années a su s'imposer comme l'une des artistes les plus singulières de la chanson française. 3 ans après Icare, la voici de retour avec un nouvel album, donc La Souterraine. Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
Les premiers mots d'un album, est-ce que ça donne le ton? Est-ce que ça donne le là? Comme un roman, peut-être?
C'est sûr, c'est certain. Je réfléchis beaucoup à ça. Quels sont les mots et quels sont les sons? Ou quel est le son que je voudrais voir ouvrir un disque?
Et un disque s'écrit comme un roman?
Pour moi, il y a une narration. Comme un roman, ce serait peut-être un petit peu, non pas ambitieux, mais prétentieux. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ceux qui écrivent des romans. C'est quelque chose qui me semble comme une montagne à gravir. Mais oui, il y a un fil. Il y a un fil narratif. En tout cas, moi, j'aime le penser comme ça. J'aime pas le penser comme une succession de chansons. Ensuite, ce fil narratif, il faut qu'il fonctionne avec les sons qui se succèdent, l'énergie qui est mise et qui repart. Donc, c'est un fil qu'on doit construire avec plein de fils différents.
Dans ces premiers mots et dans cette première chanson, comme dans la plupart d'ailleurs, ou dans beaucoup de cet album, sourd une inquiétude. Le tonnerre gronde, le sol s'effondre, dites-vous dans un autre texte. C'est une inquiétude grande, moyenne, petite chez vous? Et de quelle nature est-elle?
Il y a une inquiétude existentielle en moi depuis que je suis toute petite, avec laquelle je dois composer. C'est peut-être pour ça que j'ai... Enfin, c'est même pour ça que j'écris, c'est sûr. Mais il y a une inquiétude existentielle au sens beaucoup plus large et collectif à... Aujourd'hui, oui, avec les secousses que ce monde, qui s'empare de ce monde, ces fracas, le mur qu'on est en train de se prendre, mais qu'on ne veut pas voir, c'est inquiétant.
C'est quoi le mur que...
Le mur climatique, qui n'est pas juste un dérèglement climatique qui serait nocif pour l'environnement. L'environnement n'est pas notre jardin qui serait un peu abîmé, mais il est bien ce dont on fait partie, on est une partie du tout. Donc c'est nous qui sommes remis en question dans tout ça. Et bien sûr que c'est inquiétant. J'ai 2 enfants. Je me dis, ils démarrent quand même. Moi, je suis à la deuxième partie de ma vie. Eux, ils sont en train d'entamer la première. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Comment garder l'espoir dans tout ça? Quelle réponse donner? Quel chemin tracer? Et il y en a, j'en suis convaincue. Je suis convaincue de ça. Et puis, on est obligé d'être convaincu de ça.
Mais le réchauffement climatique ou l'urgence de la transition écologique sont des sujets pour la chanson?
Ce sont des sujets pour nous en tant qu'humains et citoyens.
Ce ne sont pas que des sujets politiques.
Ce sont des sujets humains. Ce sont des sujets de nous, pour nous individuellement et collectivement. Et moi, je trouve ça compliqué. Ils sont tellement omniprésents et ils concernent tellement nos vies à chacun. Donc, notre être, nos sentiments, nos émotions par la force des choses, c'est compliqué d'être étanche à ça. Moi, je suis complètement... poreuse quand on est tous, je pense, quand on crée. Et je fais à partir des émotions que je reçois. Et l'avenir de notre avenir me chamboule de plus en plus.
Artiste et citoyenne et artiste, je ne sais pas dans quel ordre. Est-ce que vous faites œuvre, Émilie Loiseau, de militance? Est-ce que vous vivez comme une militante?
De plus en plus. La chanson engagée était quelque chose que je trouve... Déjà, je trouve ça un peu compliqué. J'aime pas ce terme. Parce que l'art engagé, comme on le disait à l'instant, vous le disiez à l'instant, je pense qu'on est un citoyen engagé. Et ensuite, on fait son métier et on fait son art comme un artisan, comme un artiste, comme un commerçant. Enfin, on est dans son métier en tant que citoyen aussi, et donc on choisit ou non de se poser des questions de l'ordre de notre engagement dans notre métier. Moi, j'ai la parole, je suis conteur, conteuse, et donc je me sens le besoin de faire ma part en parlant, en étant à des endroits où je peux aider, et puis en écrivant là-dessus, mais pas juste par devoir aussi, parce que ça me préoccupe beaucoup, beaucoup au niveau de mes sentiments, de mes émotions. Mais j'estime que c'est compliqué pour moi aujourd'hui de me dire que je vais venir vous voir et parler juste de mon nombril, ou que je vais écrire une chanson qui parlera que d'un cant à soi. Je trouve ça, c'est devenu impossible en fait.
Dans le précédent album, Icare, vous écriviez déjà « La vie tient du miracle, il en faudrait si peu pour l'abattre ». C'est comme s'il y avait un lien entre les deux albums.
Il y a un lien très fort. Ils ont été écrits à peu de temps d'intervalle. J'ai un peu bousculé mon biorhythme, qui est de finir une tournée, d'entrer en jachère, et d'ensuite d'écrire le prochain et de l'enregistrer. Là, j'avais des commandes pour des BO, pour un documentaire et puis pour une pièce de théâtre. Et donc, ça m'a forcée à me remettre à l'écriture tout de suite, alors que je démarrais tout juste ma tournée. Et je me suis retrouvée avec, comme ça, des musiques, des chansons que je n'avais pas juste envie de laisser pour ces films. Et puis, voilà. Donc, j'ai continué d'écrire pour avoir vraiment un disque. Et donc, ce film, l'un donc, de ma sœur, Manon Loiseau, qui s'appelait « La vie devant elle », sur l'exil d'une jeune Afghane de 14 ans, pendant 3 ans sur la route de l'exil avec sa famille. Et Ladzi, qui est une espèce de fable apocalyptique sur la fin d'un monde, la fin du cinéma tel qu'il était avant, etc. Et de l'absence féminine, enfin de la présence constante de la figure féminine, mais qui est toujours absente du plateau. Enfin voilà, tout ça.
Ça, c'est une pièce de Fabrice Melchior.
De Fabrice Melchior, qui s'appelle Ladzi. Développait des thématiques qui étaient très en résonance avec ce que j'avais écrit dans Icare et ce qui me préoccupait. Je pense que ce n'est pas pour rien que ces BO m'étaient arrivées, ces deux commandes m'étaient arrivées. Et donc, ça m'a permis de continuer de tirer le fil.
La Souterraine, nouvel album donc, et premier titre, Éclaire-moi.
À facettes, le tonnerre grand, que le ciel se soumette, un astre tombe, arrache-moi le cœur, déleste-moi, détourne les malheurs, tu sais faire ça. Je danse dans la nuit, éclaire-moi. Je tourne et m'évanouis, éclaire-moi. Fontaine, je n'ai su que boire la vie d'une traite éperdue. Écorche-moi le corps, je n'ai pas peur. Je me vois dans le décor avant.
La boule à facettes, le fait de danser sous la boule à facettes, Émilie Loiseau, c'est une image que l'on retrouve dans d'autres titres de votre album. Elle vous fascine, cette boule à facettes? C'est une métaphore?
Oui, c'est une métaphore. J'ai choisi de l'utiliser. Alors, D'abord, elle était présente dans la pièce de Fabrice Melchior. Le personnage qui est donc un... Il y a deux hommes ferment le dernier vidéothèque de la planète et vont s'installer tout seuls, tous les deux à la campagne. Ils vivent avec deux femmes absentes. L'une est partie, l'autre est décédée. Et Philippe, qui a souvenir de cette femme, Claire, qui est décédée, se souvient d'elle sous la boue de la facette. Et il se souvient d'elle très jeune, comme immobilisée, comme arrêtée, comme si elle avait eu une vision. Et il se dit qu'elle avait la vision, l'intuition de sa sortie de route. Voilà, donc cette chanson est comme un cri d'amour. Où tu m'as toujours sauvée de tout, c'est elle qui parle. Tu as toujours su me sauver de toutes les embûches. Tu peux me sauver de ça aussi, de la maladie. Donc cette boule à facettes est venue là, comme cette chose qui éblouit, qui est comme la boule de la vision aussi, la boule de cristal. Et puis je l'ai réutilisée après. Dans cette, parce qu'elle elle a incarné pour moi le désir de lumière, quoi, le besoin de lumière, et ce disque dit beaucoup ça. Mais c'est aussi le symbole de la fête dans la chanson La Souterraine, c'est-à-dire tant que la boule à facettes tourne, on danse dans cette voie souterraine, et tant qu'elle est là et qu'elle tourne, on peut se dire que tout va bien, on peut oublier le monde qui crame, on peut continuer de regarder ailleurs. Donc c'est celle qui nous éclaire, celle qui nous éblouit, celle qui nous empêche de voir le réel. C'est, voilà.
En effet, on retrouve la boule à facettes dans La Souterraine, qui donne donc le titre à l'album. Pourquoi d'ailleurs cette chanson donne le titre à l'album plutôt qu'une autre chanson ? Éclaire-moi, c'était pas mal. Sachant que la boule à facettes, vous l'avez, la boule à facettes, La Souterraine, vous l'avez raconté, c'est l'histoire comme ça d'un dancing souterrain, mais c'est aussi l'histoire d'une femme dont la vie est brûlée parce qu'elle est abusée par son mari.
Oui, c'était une mise en parallèle. Donc tout le monde regarde ailleurs, le monde crame, mais cette fille crame de l'intérieur aussi. Et on préfère se dire que sur la piste de danse, elle a l'air heureuse. Pourquoi ce titre ? Parce que j'ai beaucoup hésité, hein, comme toujours, choisir le titre qui convient. C'est toujours la vraie décision finale. Il y a quelque chose de... Le souterrain, c'est à la fois l'endroit où... c'est un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire on vit dans la pénombre, on prend les ombres pour la réalité. Quand on va voir la réalité, elle nous éblouit complètement, on ne comprend plus rien, on a le réel biaisé. Donc ça, pour moi, ça symbolise bien cette période qu'on vit aujourd'hui. Mais il y a aussi quelque chose de subversif dans La Souterraine. C'est l'endroit où on résiste, c'est l'endroit où on crée peut-être quelque chose de meilleur, un possible plus lumineux, c'est l'endroit où on fomente les révolutions.
Comment s'écrit une chanson, Émilie Loiseau ? En tout cas, pour vous, ça commence comment ? Vous l'avez un peu raconté là sur ces deux textes, mais ça se travaille comment ? Avec ou sans la musique ? Je parlais au tout début de l'émission de mots jetés. Est-ce qu'ils sont vraiment jetés comme ça et puis après vous regardez ce que ça fait ou quand ils sont posés sur le papier, ils ont été mûrement réfléchis ?
Alors, déjà, j'accumule énormément de musique. Au fil du temps, sur mon dictaphone de téléphone, il y a tout un tas de petits mémos qui s'entassent et qui sont là, qu'ensuite je transforme un peu parfois sur Pro Tools, sur ce logiciel de musicien, pour enregistrer des maquettes voilà, un peu en yaourt. Un peu. Donc il y a beaucoup de musique, toute seule, déjà, qui sont des bases pour écrire les textes pour moi. C'est dans ce sens-là que j'écris la plupart du temps. C'est rare que j'écrive dans l'autre sens. Et puis après, il y a en parallèle de ça un travail de lecture, d'interviews, de textes, d'articles, de poèmes, de livres et de notes que je prends et où des idées, des mots clés s'entassent comme ça. Et quand j'ai une musique, je me dis, je m'attaque à cette musique-là. Parfois, je décide de quoi je veux parler et parfois, juste, je parcours ça et il y a quelque chose qui démarre et c'est comme un puzzle qu'on invente au fur et à mesure. Mais il y a quand même de plus en plus une vue à atteindre. Alors, l'exemple est complètement à l'encontre de ça dans Éclaire-moi, puisque j'avais une musique et que... Enfin non, c'est pas complètement, d'ailleurs. C'est pour le coup Fabrice qui a écrit le texte et moi qui ai dû placer ce texte sur cette chanson.
Alors, vous dites, c'est comme un puzzle. Moi, je trouve que c'est comme un poème. Votre texte ressemble à des poèmes. Et d'ailleurs, j'aimerais... Alors, je ne sais pas si ça se fait de demander ça à une chanteuse, mais j'aimerais que l'on entende et donc que vous nous lisiez un de vos textes, mais sans musique. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Avec plaisir. Je vois dans tes yeux l'eau qui monte. Je vois dans tes yeux comme un fleuve qui gronde. Le sol s'effondre, la mer est haute. Je vois dans le ciel l'eau qui tombe. Et je vois ton cœur qui tonne et qui sombre. Ton cœur se casse et la mer est haute. Au fond de l'eau, je le ramasse, la mer est haute. Allons sur la vague qui s'envole dès l'aube. Allons sur la vague où les rêves se posent. Car la terre est si basse et la mer est haute. Au fond de l'eau, je le ramasse, la mer est haute. Je vois dans tes yeux l'eau qui monte. Je vois dans tes yeux comme un fleuve qui gronde. Je vois dans tes yeux l'eau qui monte. Je vois dans tes yeux comme un fleuve qui gronde. Je vois dans tes yeux.
Je vois dans tes yeux l'eau qui monte. Je vois dans tes yeux comme un fleuve qui gronde. Le sol s'effondre, la mer.
Je vois dans tes yeux, version parlée et version chantée, Émile Loiseau. C'est assez passionnant d'entendre ces deux façons d'écouter un texte, parce que finalement, c'est très différent.
Oui, c'est sûr.
Et puis c'est vous toujours, et c'est le même texte.
C'est sûr, je me suis laissée surprendre moi-même parce que je n'ai pas vraiment fait ça. Je n'ai pas lu ce texte auparavant. Donc on le vit autrement.
Alors il y a les mots dans une chanson, il y a aussi la voix. Que vous travaillez, ou c'est naturel d'entendre ces fêlures, ces ruptures et ce grain si particulier de votre voix qui est capable d'être très grave et très brisée? Et très ronde aussi, parfois.
C'est très naturel. Je laisse ma voix, et puis elle change d'ailleurs, et je vois qu'elle, je dirais pas qu'elle mue, mais enfin, elle se baisse. Je la trouve aussi, je crois que je la rejoins. Je crois qu'on rejoint sa voix au cours d'une vie.
Est-ce que la voix est une troisième écriture, considérant que la première, c'est donc pour vous la musique, ensuite le texte, et ensuite l'interprétation?
C'est sûr, on peut d'ailleurs... Parfois, c'est tout un chemin, l'interprétation, surtout quand on va en studio. C'est pas pareil, le live. Le live, il y a autre chose qui s'empare de soi, comme une forme de transe. On a beaucoup travaillé avant et ensuite, il y a quelque chose, on lâche quelque chose en studio. On essaye de retrouver ça tout en... C'est la première fois qu'on va le livrer et c'est aussi ce qui va rester un peu éternellement dans les oreilles des gens. Donc, on veut à la fois ne pas en faire trop, être authentique et en même temps, faire attention à chaque... à ce qu'on va laisser. Donc c'est tout un chemin de naturel à trouver dans tout ça.
Personnellement, je pourrais écouter une chanson à l'infini juste pour réentendre comme ça un moment d'une chanson, une voix, une fêlure, un éclat dans un texte ou dans un titre.
Je suis complètement d'accord et c'est pour ça qu'aussi il faut savoir relativiser ça, cette prise, et accepter l'accident. Parce que je crois qu'il y a tellement de disques qui sont l'exemple de ça chez Bob Dylan, par exemple. Il y a plein de moments dans les disques où il y a d'un seul coup un mot qui part, ou un cri, ou quelque chose, ou une note légèrement à côté et qui devient mythique parce qu'il y a une histoire qui s'est racontée et que c'est devenu très fort pour l'auditeur.
Quelles sont les voix qui vous font de l'effet, Émile Loiseau, ou qui vous ont fait de l'effet?
Alors, il y en a eu plusieurs.
Je ne veux pas le catalogue entier.
Non, mais en ordre chronologique, je dirais, il y a un chanteur et comédien que ma grand-mère connaissait, qui s'appelait Paul Robeson, qui chantait des Negro Spirituals avec une voix d'outre-tombe incroyable, incroyable, qui m'a beaucoup chamboulée enfant. Il y a la voix de Bob Dylan, ça c'est sûr, il y a la voix de Nina Simone. Et la voix de Leonard Cohen a été un choc quand j'avais 12 ans, à peu près.
Alors, nous parlions d'un album inquiet à propos de La Souterraine. Il y a quand même aussi des moments lumineux dans ce disque, dont cette route de Vénus. Émilie Loiseau, vous connaissez cette route de Vénus? Vous savez dans quelle direction aller?
Non, je pense qu'on a plein de clés pour la trouver et il s'agit de les écouter, de s'en emparer.
C'est pas que l'amour.
Prendre soin du vivant, quel qu'il soit, humain, animal, végétal, le vivant, prendre soin. Je crois que c'est, si on réfléchit comme ça, je pense que ça peut indiquer un chemin assez facilement.
C'est la note optimiste de l'album, cette chanson.
Oui, et en même temps, c'est un appel à le faire. C'est un appel à prendre ce temps-là, un appel à se libérer, un appel à se libérer d'un récit un peu morbide, d'un humain qui aurait besoin de consommer toujours plus, d'avoir peur de son voisin, d'avoir besoin de sécurité. C'est le rêve des autres, ça, c'est le rêve de ceux qui ont besoin de nous maintenir dans ce récit-là. Mais c'est pas forcément le nôtre, je crois. Je suis même convaincue que c'est pas le nôtre, au fond.
Alors, ce titre est une ballade un peu folk, mais l'album est quand même plutôt rock. Est-ce que vous choisissez entre les deux?
Non. Je ne me pose jamais cette question. En fait, il y a un besoin. Moi, j'ai toujours eu un besoin à la fois intime et comme chuchoter à l'oreille et un besoin cathartique. Donc j'essaye de répondre à ces deux besoins d'une manière sonore qui me parle et qui me donne envie d'être sur scène et de jouer, c'est tout.
Et pour cet album, comme pour le précédent d'ailleurs, vous avez travaillé avec le producteur John Parrish, qui est une référence absolue dans le monde de la musique et notamment dans le monde de la musique anglo-saxonne. Et d'ailleurs, dans cet album, il y a quelques chansons, 5 au total, en anglais. I want to turn the volume down. Ça, je suis pas sûr de l'accent.
Well, I can't listen to darkness. I can't listen because it's too loud. And all these voices in my mind, all these voices by my side.
Émile Loiseau, vous êtes franco-britannique parce que votre mère est anglaise et vous écrivez et vous chantez indifféremment apparemment en français et en anglais. Mais quelle est votre langue ?
ma langue est celle de mes rêves. Ils sont parfois en français, parfois en anglais, parfois ils se mélangent. J'ai été élevée en France par contre.
Donc... Mais en langue anglaise, votre mère vous parlait anglais ?
Oui, ma mère me parlait anglais. De plus en plus. Au départ, je crois qu'elle avait très peur de passer à côté de notre éducation en France, de ne pas être dans le coup. Donc, elle a voulu être du côté où on était. Mais plus ça allait, plus elle nous a parlé en anglais. Oui.
Et une langue est plus musicale que l'autre pour vous ou non ?
À vrai dire, non. Mais l'anglais est plus spontanément musical, je crois. Il y a quelque chose où il sonne directement. Il est plus... c'est le mot qui me vient, pardon, playful. On peut plus jouer avec facilement. On peut assembler des choses. Il a un truc ludique, l'anglais. Mais le français, il y a quelque chose de tellement profond aussi, quand on arrive à le faire sonner, quand on parvient à l'écrire tel qu'on rêve de l'écrire. Je trouve qu'il y a... Et moi, ce que j'aime, c'est essayer d'allier les deux. J'ai beaucoup fait ça, précisément, faire venir l'un à l'autre. Je trouve que l'anglais, quand on fait venir le français vers cette chose un peu ludique de l'anglais, on arrive à le tordre d'une manière que je trouve intéressante, par exemple.
Et chantant en anglais, vous pensez à l'international ou pas du tout ? Ça aide quand même l'anglais.
Oui, c'est sûr. Ensuite, curieusement, je suis en train de sortir, par exemple, mon album en Angleterre, et il n'est pas dit... Il y a des versions anglaises de certaines chansons en français, comme Je vois dans tes yeux, par exemple, qui a été écrite pour la pièce de Ladi en anglais au départ. Et j'ai eu envie de la traduire parce que je voulais parler à un français en France. Mais ce n'est pas forcément la version anglaise qu'ils vont choisir. Et je crois que ça dépend des pays, mais ils aiment bien aussi cette petite chose de l'ailleurs.
Tout ça pour vous demander si vous rêvez toujours à l'autre bout du monde.
Ah, oui,
c'était le titre de l'une de vos chansons en 2006.
Oui, toujours, éternellement, bien sûr. Et c'est aussi le rêve. C'est aussi le pays de notre sommeil.
Merci beaucoup, Émilie Loiseau.
Merci à vous.
La Souterraine est éditée chez Sony Music sous le label Les Éditions de la Dernière Pluie. C'est un album réalisé donc avec John Parrish. Et vous prenez la route bientôt avec un premier concert le 5 novembre à Porte-les-Valence, puis tournée en France à Paris le 6 février 25 à La Cigale. Et je crois que c'est la première fois de l'année que je donne rendez-vous pour 2025. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Laura Pinto, à demain.